Alors, mes recherches portent essentiellement sur la décolonisation du Sénégal, l'histoire de la décolonisation du Sénégal, qui est un pays dont la trajectoire est a priori très différente des pays évoqués ce matin, la Corne de l'Afrique, d'une part, et d'autre part, Madagascar. Et pourtant, je vais essayer d'apporter... à partir de ce terrain, du Sénégal, de mon terrain, des questionnements, des commentaires sur les interventions de ce matin, en risquant quelques éléments de comparaison. Je vais commencer et me concentrer au départ sur la communication d'Alessandro Triulzi, en essayant, si j'ai le temps, d'enchaîner ensuite sur celle de Didier Galibert. Sinon, les questions pourront peut-être être posées plus tard de façon informelle. Alors, la communication sur le mal d'Africa italien m'a énormément intéressée, interpellée, et m'a suggéré une série de remarques comparatives avec, d'une part, la situation du Sénégal colonial et postcolonial, et d'autre part, avec la situation de la France coloniale et postcoloniale. La première comparaison qui m'est venue immédiatement à l'esprit lorsque vous avez évoqué les fameux accords de Benghazi entre la Libye de Kadhafi et l'Italie de Berlusconi, eh bien évidemment, c'est les accords de réadmission passés entre le Sénégal d'Abdoulaye Wade et la France de Nicolas Sarkozy, accords de réadmission qui datent de 2008 et qui permettent, par lesquels le Sénégal, moyennant subsides avantageux, s'engage à recevoir tout expulsé, tout migrant irrégulier expulsé de France. Ces accords de réadmission qui sont aussi en train d'être signés avec d'autres pays, le Maroc notamment, mais pas le Mali, en tout cas pas encore le Mali. En tout cas, ces accords de réadmission sénégalais, eux aussi, comme ceux que vous avez évoqués entre Kadhafi et Berlusconi, contiennent sous la caution du co-développement, beaucoup d'ambiguïtés qui ont été dénoncées notamment par la CIMAD. D'autre part, ce que vous avez raconté de la visite folklorique du leader libyen en Italie pour promouvoir une fictive réconciliation, reconnaissance du passé colonial, mais ça fait inévitablement penser aussi, du côté de chez nous, à l'invitation très ambiguë qui a été faite cet été par le président français aux troupes des pays africains, des ex-français, à participer au défilé du 14 juillet. Voilà les éléments de comparaison, les petites remarques qui me viennent que je ne développerai pas. Je développerai un peu plus, en revanche, une autre remarque pour comparer ce que vous avez dit de l'idéologie coloniale italienne qui se symboliserait dans ce mal d'Africa avec ce qu'il en est du côté français. Alors, je n'ai pas trouvé, contrairement à ce que vous avez cité, je ne trouve pas que l'expression « mal d'Afrique » ou mal d'Africa soit très utilisé de notre côté dans le débat public. Je ne trouve pas au fond d'équivalent d'une telle notion polysémique mal d'Africa du côté français. J'ai cherché et la seule chose qui m'est venue, ce serait quelque chose comme passion africaine ou passions africaines au pluriel. Et là, il est vrai que ça correspond au mal d'Africa italien et aux trois définitions que vous avez évoquées. Premièrement, la passion qui serait, ou les passions qui seraient celles des explorateurs et militaires de la Troisième République française. Deuxièmement, les passions qui seraient celles de la nostalgie des ex-colons. On la connaît pour les pieds noirs, bien sûr, algériens. On connaît moins bien la nostalgie qui habite certains anciens français des colonies d'Afrique subsaharienne. Un exemple anecdotique et en même temps très intéressant est celui des Ariégeois du Sénégal. Les premiers, parmi les petits colons, les petits blancs qui ont peuplé, qui ont été s'installer au Sénégal dans les années 1920, 1930, 1950, il y avait une filière ariégeoise pour des raisons diverses. Et cette filière ariégeoise, eh bien, on en a encore la mémoire, à tel point qu'en 2003, le Conseil général de l'Ariège, où paraît-il, on parle encore wolof, on a encore des locutions wolof dans les séances du Conseil général de l'Ariège. Eh bien, ce Conseil général de l'Ariège a lancé un appel à communication sur les Ariégeois du Sénégal et a organisé un mini-colloque tout à fait local sur les Ariégeois du Sénégal. Donc il y a aussi cette nostalgie de l'Empire, ce mal d'Africa, cette passion africaine, pas seulement du côté des pieds noirs. Et puis enfin, troisième mal d'Africa, troisième passion africaine, au sens de passion pâtir, hein, c'est effectivement actuellement l'idée que, il faut, qui prédomine dans certains discours, qu'il faudrait se débarrasser au fond du corps malade africain, hein, c'est-à-dire de cette migration qu'on refuse de plus en plus. Ça pourrait aussi d'ailleurs se manifester, cette maladie africaine, dans la volonté régulièrement affirmée, mais jamais mise en pratique, mais régulièrement affirmée, de se désengager de l'Afrique. Hein, la France doit se désengager de l'Afrique subsaharienne. Parenthèse, vous avez dit, et là c'est une question que je vous pose, qu'il n'y a pas d'équivalent. Vous avez cité un auteur anglais disant qu'il n'y avait pas d'équivalent du côté britannique. Alors je me pose la question, quid de le white man burden? Est-ce que finalement, malgré tout, il n'y aurait pas ça aussi du côté anglais? Quatrième remarque, comparative. Cette fois sur ce que vous avez dit de la mémoire italienne du passé colonial, que je voudrais comparer à la mémoire du passé colonial française, bien que je ne sois pas spécialiste de ces domaines. Je relève deux contrastes intéressants. Premièrement, il est clair qu'en France, il n'y a pas eu de refoulement aussi radical que celui que vous évoquez pour l'Italie. Ou en tout cas, si refoulement il y a eu, il n'a pas eu la même chronologie. En effet, il y a eu en France ce que vous dites qu'il a manqué en Italie, c'est tous les engagements collectifs de la société française et notamment des intellectuels de la gauche française dans les combats de la décolonisation. Et ces engagements collectifs ont impliqué la participation d'une génération intellectuelle, de plusieurs générations intellectuelles, qui ont étudié, questionné, mis sur la place publique, dans le débat public, le passé colonial français, avec les acteurs dont on a entendu l'un des plus illustres aujourd'hui, Georges Balandier, mais aussi Henri Brunjvic, Suré Canal, et du côté du Maghreb, Charles-André Julien, Robert Hergeron, etc. Ces intellectuels, ces artisans de l'histoire coloniale qui ont aussi finalement été des acteurs, pour reprendre le thème de l'atelier, de l'histoire de la décolonisation, ont été relayés par les colonisés puis les ex-colonisés. Pour ne parler que des Sénégalais, et Georges Balandier a bien évoqué ses amitiés et l'influence de Léopold Sédar Senghor, de Alioune Diop, de Cheikh Anta Diop, on pourrait évoquer Abdoulaye Ly. Tout ça montre, et là je me limite évidemment aux colonisés et ex-colonisés sénégalais, qu'il y a eu, contrairement à l'Italie, dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70, des acteurs, des artisans de la mémoire coloniale, de la critique de la situation coloniale. Et ça montre, une fois de plus, la pertinence de notre atelier, artisans et acteurs de l'histoire, l'importance de générations intellectuelles, de réseaux d'acteurs, des amitiés qui ont pu être nouées entre Français et Africains dans le fait que la question coloniale a été dans le débat public en France assez tôt. En revanche, et ça a été étudié récemment par beaucoup d'historiens, il y a eu, à partir des années 80 en France, un recul de l'histoire coloniale, une marginalisation de l'histoire coloniale dans le débat public et dans la mémoire collective. L'un des articles qui m'a le plus intéressé à cet égard est celui de Jean-Louis Triot, l'analyse de Jean-Louis Triot faite dans Afrique et Histoire de 2006, où il pense que ce reflux de l'histoire coloniale, de la mémoire coloniale dans les années 80, dans le débat public, a été compensé par contre, une mise à l'honneur des études africaines, hein, des area studies et des études africaines. Et puis, il dit qu'ensuite, depuis les années 2000, il y a un retour du refoulé qu'il analyse et qui a été analysé par d'autres. Donc voilà, à mon avis, la première différence, hein, entre la mémoire coloniale italienne et la mémoire coloniale française, c'est pas la même chronologie et c'est pas le même refoulement. L'autre différence, qui à mon avis est plutôt à l'avantage de l'Italie, d'après ce que vous avez dit, c'est qu'il me semble que la France a par contre moins connu, ce phénomène que vous avez décrit de l'émergence sur la place publique depuis les années 90-2000, d'une parole des décolonisés, d'une parole des ex-colonisés, témoignant par la littérature de l'expérience coloniale et de l'expérience post-coloniale. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant et fascinant votre évocation de ces romancières italophones issues de familles d'ex-colonisés italiennes qui disent à leur manière ce que fut la situation coloniale, notamment, vous citez, la violence des unions interraciales, à travers la violence des unions interraciales. Il me semble que ça illustre l'intérêt d'un autre récit sur le passé que le récit scientifique historique, l'intérêt de la littérature pour l'historien, et ça fait l'objet de travaux récents en ce moment, y compris à l'EHESS. C'est une parole, finalement, celle que vous évoquez, qui est d'autant plus précieuse que ces romans, ces récits viennent de femmes, c'est-à-dire d'actrices marginales, marginalisées, viennent de femmes issues d'unions mixtes, encore une position marginale, et que, du coup, elles témoignent de la forme la plus intime, la plus concrète de la rencontre coloniale. Il me semble, ça confirme ce que je pense depuis longtemps, que le plus intéressant pour décrire cette rencontre coloniale ou post-coloniale, c'est finalement ce que peuvent dire les acteurs qui sont à la croisée des deux mondes, dans les interstices entre les deux mondes, dans un entre-deux. Ces femmes issues d'unions mixtes, par exemple, mais aussi les Indiens qui ont été évoqués hier par Sanjay. Et je pense ici, pour revenir à la littérature, au grand roman de V.S. Naipaul, À la courbe du fleuve, qui est un des témoignages les plus fascinants et les plus concrets sur ce qu'a été la rencontre coloniale dans le Congo des années de la décolonisation des années 60 à 65. Et ça, il me semble qu'on peut se demander si on trouve l'équivalent en France. C'est-à-dire cette littérature qui émerge en Italie et qui est un récit sur le passé colonial, est-ce qu'on le trouve en France? Alors évidemment, il y a une littérature africaine francophone riche, immense, très importante, qui évoque le temps des indépendances, pour me restreindre là aussi au Sénégalais, Sam Ben Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, Camp de Tiaroy, son film sur Camp de Tiaroy. Mais on note que Les bouts de bois de Dieu ont été écrits en 1960, c'est-à-dire vraiment a posteriori, après la fameuse grève de 1948 qu'il évoque. On note que Camp de Tiaroy est sorti en 1998. Là aussi, c'est des récits reconstruits, militants. Ce n'est pas des témoignages intimes. Et au fond, ce qui est plus intéressant chez Sam Ben Ousmane, il me semble, et parce que c'est plus intime, c'est un livre peu connu de lui, paru en 1957, « Ô pays, mon beau peuple », où il évoque une union mixte et les problèmes et la tragédie d'une union mixte franco-sénégalaise, justement. Et là, on sent de l'expérience, on sent de l'intime et on comprend quelque chose de la problématique rencontre coloniale. Et puisqu'il a écrit en 56, un an avant, le Docker Noir, où il raconte son expérience de travailleur immigré africain à Marseille, en France. Et là, c'est intéressant, dans le Docker Noir, on note qu'il emploie le mot « noir ». Et dans tout l'ouvrage, il parle de son identité de noir, pas de son identité d'Africain, et encore moins de son identité de Sénégalais. Et là, ça rejoint un peu ce que disait Frédéric Cooper. On se demande si, en 56 encore, quelqu'un comme Sam Ben Ousmane n'avait pas une identité plus impériale, au fond, que nationale. Interrogation que je pose. Donc je viens d'évoquer là finalement des exceptions. Il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a quelques romans au fond qui ne sont pas militants, qui font un récit de la situation coloniale et postcoloniale de façon intimiste et utilisable par l'historien, mais ce sont des exceptions, il me semble. Ils n'ont pas atteint un large public et donc ils ne sont pas rentrés dans le débat public en France. Quid d'aujourd'hui ? Quid d'aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui il y aurait une timide émergence de l'équivalent de ces romancières italophones dont vous parliez ? On peut se poser la question. Fatou Diom et son fameux roman Le ventre de l'Atlantique, effectivement, elle évoque là quelque chose qui est de l'expérience post-coloniale, hein, plutôt que coloniale. Marine Diaye, au fond, a fait surtout des romans français. Elle ne parle pas de l'Afrique. Elle ne se définit même pas comme africaine. Et ce n'est que très récemment qu'elle est revenue au pays de son père, qu'elle est revenue à son expérience dans son dernier roman, Trois femmes puissantes, d'enfants issus d'une union mixte franco-sénégalaise, qu'elle a participé au dernier film de Claire Denis. On pourrait évoquer d'ailleurs, à côté de ses romancières, et je vais m'arrêter là, Claire Denis qui est une cinéaste, mais qui parle aussi du côté européen de cette rencontre coloniale et de cette expérience post-coloniale. Donc je vais conclure simplement. Je suis désolée pour les commentaires que j'avais prévus sur l'exposé de Didier Galibert, mais on pourra en parler ensuite, que aussi bien votre communication que la sienne, que le débat avec Georges Balandier témoignent et confirment bien que la fin des empires, il n'y a pas forcément de fin des empires, hein, la mémoire des empires perdure, que deuxièmement, ça témoigne de la fécondité, de la diversité des différents récits sur le passé des décolonisations. Et d'ailleurs, le titre « Il était une fois les indépendances » montre bien, hein, à mon avis, évoque bien « Il était une fois ». Ce n'est pas seulement l'histoire scientifique, académique, c'est aussi la littérature, la mise en scène à travers des académies malgaches ou des monuments d'Abdou Aïwad, par exemple. C'est aussi l'égo-histoire à laquelle vient de se livrer Georges Balandier. Et en fin de compte, cette matinée témoigne des liens très étroits et très féconds et très, très intéressants qui existent entre les acteurs de l'histoire et les artisans de l'histoire. Je vous remercie.
Je ne saurais trop remercier les organisateurs du comparatisme affirmé de cette entreprise, parce que c'est très beau de parler, comme les historiens français commencent à le faire depuis quelques années, de world history, d'histoire comparée, d'histoire connectée, et de discuter savamment dessus. Mais c'est beaucoup plus important, à mon avis, de le faire. Et c'est beaucoup moins fréquent, comme nous tentons de le faire ici, grâce à l'organisation de ce colloque. C'est-à-dire, comme disait déjà Détienne il y a fort longtemps, comparer l'incomparable, comparer aussi des processus concomitants dans le temps, donc avec le postulat que tous ces processus impériaux interviennent à peu près dans le même temps. Et j'y ajouterai par exemple la déségrégation, aux États-Unis entre les années 1950 et 1963-67, ce n'est pas un hasard. Il y a des processus mondiaux là-dessous, et avec des spécificités locales évidentes. Mais c'est une grande idée, effectivement, que nous devons d'ailleurs à ces initiateurs, c'est-à-dire Fred Cooper et Jane Burbank, qui, il y a quelques années, ont eu l'idée d'étudier, de comparer les différents empires à une époque où l'idée n'était encore venue à pas grand monde. On peut aussi comparer ce qui est, paraît plus incomparable. C'est dans le temps en ce moment. Probablement, vous avez sûrement eu connaissance du travail qui vient d'être traduit de Pomerans, qui compare la Chine et l'Occident. Pourquoi le démarrage a eu lieu en Occident et pas en Chine? Il y a eu un colloque la semaine dernière sur cette question. Et j'ai un petit peu quand même titillé Pomerans en lui disant « Oui, mais vous écartez complètement l'Afrique, en disant des choses pas très exactes sur l'Afrique, c'était juste la traite, bon, et l'or, bon, ça n'a pas joué. Mais il a dit, on peut faire une comparaison en excluant l'Afrique. Eh bien non, on ne peut pas faire de comparaison en excluant quoi que ce soit, y compris l'Afrique. Et dans une comparaison, je dépasse un peu le sujet, entre l'Occident et l'Asie, évidemment, l'Afrique intervient aussi. Dans le contexte, bien entendu. Alors, donc, concordance dans l'espace, concordance dans le temps, mais ce n'est pas quand même absolument nouveau. Et alors là, je vais faire un peu l'ancienne, si je peux me permettre, Georges. Je me souviens d'un grand colloque qui a été organisé et publié d'ailleurs par Guy Ford et Lewis. C'était un colloque qui a eu lieu au Zimbabwe, à Harare, ça devait être en 1983, c'est-à-dire pas longtemps après l'indépendance africaine du Zimbabwe, et dont les thèmes étaient les décolonisations comparées. Un petit peu le travail qu'a fait aussi, dans le même esprit, le travail qui a été fait à Aix, sous la direction de Marc Michel. Et on m'a demandé de faire les décolonisations de l'Afrique francophone, et le titre était « Les décolonisations de 1956 à 1975, je pense, à l'époque ». Et moi, j'ai mal compris le sujet, parce qu'on voulait que je fasse la décolonisation française en 1960. Je me suis dit, on me donne une période, elle est très bien, cette période, finalement. 1956, c'est la loi de fer. 1977, c'est la fin de la colonisation française en Afrique avec l'indépendance de Djibouti. Donc j'ai fait toute la période, ce qui me paraissait évident, et j'étais à l'époque à peu près la seule à penser que c'était évident, parce que chacun avait fait sa date et autour de sa date. Et en réalité, je pense que la décolonisation, ça commence... Ça peut commencer vraiment, les signes très précis, c'est 1936, comme le pense Daniel Emery, et puis ça commence avec la colonisation. Ça me paraît maintenant évident. Donc, ici, on construit l'histoire connectée, d'où, me semble-t-il, l'intérêt pour le commentateur, moins de commenter les textes directement, qui viennent d'être faits d'ailleurs, ce qui vient d'être fait superbement, que d'essayer d'en tirer les traits communs ou non. Par exemple, un premier trait commun, quels que soient les empires, entre ce que j'ai entendu hier aujourd'hui, c'est le maintien de l'espace impérial. Avant l'Empire, je dirais pendant l'Empire et après l'Empire. Avant, parce qu'il y a eu des zones d'influence, parce qu'il y a eu une expansion, parce que ça concerne de très long terme, finalement. Un empire, ça se constitue lentement, ça tombe pas comme ça du ciel. Pendant l'empire, c'est évident. Et puis après, ça n'est jamais fini, comme on vient de le voir ce matin. Et dans le même espace, je dirais. Alors pour l'empire russe, c'est évident, c'est toute la partie Europe, Asie qu'il concerne. Pour les empires coloniaux, c'est la même chose. Pour la France, vous avez eu pendant très longtemps ce que les Français, le ministère des colonies, appelait, et même après, bien après l'indépendance, le ministère de la coopération appelait les pays du champ, le précaré. Les pays du champ, ben, c'est l'ancien empire qui continue, qui a continué. Et la non-décolonisation actuelle de la France ou la non-décolonisation actuelle de l'Italie, qui sont très similaires, avec toutes leurs différences que tu viens d'exposer, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les différents espaces impériaux. Les liens privilégiés aussi... les liens privilégiés entre les colonies françaises, enfin les potentats francophones et la France, ou entre Kadhafi et la Libye, etc. Tout ceci me paraît évident. Il y a une autre chose un autre point commun que je verrai, qui doit pouvoir être étendu, c'est l'évolution parallèle de la transmission des savoirs. Et cette évolution qui passe d'une transmission des savoirs très coloniale à une transmission des savoirs qui s'en dégage, qui essaye de s'en dégager le plus. Alors l'Académie malgache, je la mettrai tout à fait en parallèle avec l'histoire de la revue française Histoire d'Outre-mer, qui a commencé comme revue d'histoire des colonies, qui maintenant s'appelle Outre-mer, revue d'histoire. Elle devrait s'appeler Outre-Occident, un peu d'accord avec vous, mais ce n'est pas encore passé. Il y avait encore quelques réticences des membres, qui a été très réticente à évoluer. La première tentative, c'est Jean de Vis dans les années 1970-80, mais ça a à moitié capoté. Et finalement, le contenu d'Allo Revue a vraiment changé quand Pierre Brecheux a pris la secrétariat de rédaction et Pierre Brecheux était formé aux aires culturelles, c'est-à-dire à l'histoire vue pour lui d'Asie et non pas vue de France. Et on n'a pas fini parce qu'il y a une espèce de reprise en main désirée par l'histoire de la colonisation à la française sur cette revue qui était comme ça. Donc on n'est pas sorti, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je crois qu'on peut voir, on peut le voir un peu partout. Alors la grande nouveauté, et Katharina l'a souligné au début, c'est que les historiens européens s'aperçoivent, grâce au subaltern studies, grâce au postcolonial studies, que l'histoire monde, l'histoire connectée, l'histoire que vous pouvez appeler comme vous voulez, implique que l'histoire nationale de type hexagonal, c'est fini. Enfin, ça devrait être fini, parce que on est très certainement loin du compte au moment où ce... Ça devrait être fini dans la tête des historiens. Je dois compléter ma phrase pour me faire comprendre, puisque justement en France en ce moment, on a la constitution d'un musée d'histoire de l'identité nationale hexagonale et la constitution d'un mémorial des combattants de l'Algérie française en même temps en ce moment. Par conséquent, avec une opposition des historiens, il y a un article dans Le Monde excellent sur justement l'idée fausse d'un musée national, mais je remarque que les historiens qui ont écrit un très bel article n'ont pas du tout pensé au non-occidental. Ils ont pensé à un musée de l'Europe, point. Et là encore, on s'aperçoit que le travail est très important et donc une rencontre comme aujourd'hui de transgression de ces limites est tout à fait fondamentale. Donc c'est tout à fait essentiel pour l'histoire. Mais cela, c'est une autre remarque que je voudrais faire, qui est néanmoins importante, c'est que cette histoire impériale et de la fin des empires est une histoire occidentale. Et à ce titre, c'est très important pour comprendre l'évolution de tous les processus occidentaux, non plus d'un point de vue national, mais d'un point de vue global. Tout à fait d'accord, et c'est très important. Mais je remarque que pour beaucoup des historiens des ex-pays colonisés, je vais parler de ce que je connais, l'histoire africaine, l'histoire des empires et de la décolonisation, voire du moment de l'indépendance, ne les passionne pas. Nos deux compagnons qui devaient venir d'Afrique ne sont pas venus pour des raisons tout à fait indépendantes de leur volonté, etc. Mais il y a quand même le fait qu'ils ne sont pas venus. Alors, il faut toujours s'interroger. Ils ne sont pas venus, mais parce qu'au fond, s'ils avaient vraiment été intéressés, ils seraient débrouillés pour venir. Ça révèle probablement ce que moi j'ai ressenti très fort en allant récemment en Afrique. En particulier, j'ai participé à Yamoussoukro, à un colloque très intéressant organisé par un très, très grand historien, Pierre Kipré, sur le cinquantenaire. Mais la plupart des événements ont été beaucoup plus... des appareils gouvernementaux et des manifestations de type purement politique qui n'ont pas intéressé les gens en Afrique. Et par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, j'ai découvert à ma surprise que pour les jeunes historiens africains, l'indépendance n'était pas intéressante, la décolonisation n'était pas intéressante parce qu'elle avait été octroyée par les Français. Point. Et ça, à Bamako, à Ouagadougou, à Abidjan, j'ai entendu le même discours. Alors, ça prouve évidemment une ignorance. tout ce que tu viens de dire a été oublié. D'où l'importance d'un film comme celui que vous êtes en train de faire, qui rappelle l'extraordinaire enthousiasme des indépendances et tout ce que ça représentait à l'époque, mais qui est oublié par les jeunes en Afrique aujourd'hui, jeunes historiens comme les autres, parce que les plus des trois quarts sont nés après l'indépendance et que leur problème, c'est plus les empires. C'est plus les empires coloniaux. Et alors, j'en ai eu une autre démonstration au mois d'août au Congrès international des études des sciences historiques, où il y avait un panel que j'avais organisé d'ailleurs sur ce sujet, sur la décolonisation, et où il y a la sortie d'un très bon historien togolais qui a dit « Mais on en a marre, vous ne parlez que de la colonisation européenne, l'histoire ». Alors c'est très important, ça a complètement transformé les sociétés européennes, mais notre histoire africaine, ça n'est pas l'histoire de la colonisation européenne. C'est une histoire beaucoup plus longue. Et c'est vrai que pour les Français, par exemple, de France, c'est l'histoire de la colonisation qui intéresse le plus. Pour, je dirais, les Français noirs des départements d'outre-mer, c'est l'histoire de l'esclavage. Mais pour les historiens de l'Afrique, c'est toute l'histoire de l'Afrique qui les intéresse. Et donc, ils replacent ces périodes fondamentales dans d'autres périodes fondamentales. Et Michel Akoegwe nous a dit proprement, mais il y a eu beaucoup d'autres colonisations sur le continent africain qui ont eu aussi de très grandes importances et que vous n'étudiez pas comme si c'était la seule. Et je trouve que ceci est un point important parce que faire de l'histoire connectée de type mondial, malgré tout eurocentré, ben, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce qu'il ne faut pas se déconnecter des anciens colonisés. Comme Georges vous le disiez si bien tout à l'heure, on ne peut pas faire l'histoire des empires en ne faisant que l'histoire des colonisateurs ou des interlocuteurs politiques et responsables, donc de l'élite. Il faut comprendre aussi comment ça s'est passé de l'autre côté. Alors, l'énorme apport de Fred, ça a été qu'il nous a... D'abord, tu as eu la curiosité d'aller dépouiller des archives françaises que, à ma connaissance, les historiens français n'avaient pas encore dépouillées, c'est-à-dire toutes les délibérations qui ont présidé aux constituantes de 1946 et qui montrent à quel point, effectivement, l'idée d'empire, à l'époque, était une idée complètement généralisée, aussi bien chez les colonisés que chez les colonisateurs, et qu'il y avait une convergence à ce moment-là. Et cette idée qui ressortait peut-être moins de ton exposé hier que ton chapitre formidable dans ce livre qui n'est malheureusement pas traduit, qui s'appelle « Frenchness and the Otherness ». Oui, où tu insistes là-dessus, effectivement. On a oublié aujourd'hui que la réalité impériale était à l'époque une réalité à la fois nationale et une réalité africaine, que tout ça marchait ensemble, et qu'ensuite il y a évidemment divergence. Et pour utiliser cette analogie, je dirais qu'on est en ce moment aussi un petit peu dans une divergence. On a une convergence de travail sur l'Afrique au moment des ères culturelles. Justement. Convergence insuffisante, parce qu'elle a été faite dans nos générations essentiellement par des formateurs de l'Hexagone ou d'autres hexagones, particulièrement du côté français où l'éducation supérieure avait été très faible à l'université qui n'existait pas encore en Afrique occidentale avant l'indépendance ou si peu, 2 ans avant. Mais il y a eu là une convergence de travail, et en ce moment, nous sommes en train de diverger. Les Occidentaux se remettent à faire de l'histoire occidentale, et les Africains disent, nous, on fait de l'histoire africaine. Alors, faites l'histoire occidentale si ça vous intéresse, mais nous, ce n'est pas notre problème. Et je pense que c'est un courant qui est fort, je vais conclure là, que la façon dont nous pouvons nous retrouver... Là, ma phrase de conclusion rejoindra exactement ce qu'a dit Sandro Triulzi tout à l'heure, parce que je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il nous a proposé. Le problème de l'identité nationale hexagonale, du repli sur soi, de refus des étrangers et du des immigrés qui sont hérités de cette histoire en grande partie après la Deuxième Guerre mondiale. La moitié des immigrés venaient d'Afrique du Nord parce qu'il y avait liberté de circulation totale entre l'Afrique et la France à cause de l'Union française, tandis que les Portugais avaient besoin d'un visa, tandis que les Africains n'en avaient pas besoin. On l'a complètement oublié. Bon, c'est un problème qui a été créé par les empires, en partie. Je simplifie, je caricature, évidemment. Et nous sommes là, avec le problème des immigrés, dans un problème d'empire. Pas de fin d'empire, de continuation des empires. Et donc, si nous voulons essayer de retrouver une convergence de type histoire mondiale et pas histoire occidentale, c'est sur ce problème des migrations et des immigrés que nous devons travailler aujourd'hui, dans leur histoire, bien entendu. Et en alliance avec les autres disciplines, etc. Ça n'est pas de l'histoire... Enfin, je dirais, c'est de l'histoire utile et nécessaire pour faire comprendre à nos concitoyens, y compris les non-historiens, y compris un certain nombre d'historiens, que ce problème-là est un vrai problème d'histoire des empires. Ce que, je crois, le commun des mortels a oublié. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir invité et merci aussi de m'avoir mis dans un panel où je peux quand même confronter, adresser quelques problèmes qui viennent de mon propre domaine, histoire des sciences. Et je suis historien et sociologue des sciences et il se trouve qu'au moins un papier, le papier de Didier Galibert, parle justement d'une académie savante et j'aimerais bien en fait... commencer par un commentaire de ce papier, qui est en fait la manière dont l'architecture de ce papier, son point de focalisation, c'est une institution qui commence dans un monde impérial et qui en fait finalement se nationalise et en fait ce sont ces tensions-là. Alors, c'est écrit aussi, quoique vous ne le citiez pas, mais en fait, c'est un paradigme, un modèle d'écriture et un modèle, en fait, vraiment de compréhension aussi de l'histoire des sciences au XXe siècle, l'histoire des sciences en dehors de l'Europe au XXe siècle, dans lequel ce papier est conçu. C'est-à-dire un modèle... bien élaboré dans un tout petit papier, mais très très bien connu, peut-être le papier le plus cité dans les sciences sociales aujourd'hui, qui est de Georges Bassala. Alors, un papier, un article qui paraît en 1967 dans la revue Science. Alors, que dit Bassala là-dedans? En fait, il trace la manière dont l'histoire ou la science, qui est pour lui occidentale, justement, se répand dans le monde. Le papier s'appelle « The Spread of Modern Science ». Alors, c'est 11 pages, et dans ces 11 pages, il nous livre un schéma. Alors, le schéma est le suivant, c'est-à-dire que la science étant occidentale, voyage avec les Occidentaux lors de l'expansion européenne. Il voyage avec les Occidentaux qui, en fait, objectifient le monde, c'est-à-dire traitent tout le monde, le matériel y compris, et les humains, comme des objets d'investigation et essayent de les classer. Donc, tout est objet pour eux. Jusqu'au point où ils commencent à coloniser. Une fois qu'ils colonisent, là, en fait, ils ont besoin, justement, des petites mains qui vont travailler pour eux. Et petit à petit, en fait, ces petites mains s'acculturent à la méthode scientifique, à la raison, avec un R majuscule, qui, bien sûr, est européenne, mais... qui appartient à l'humanité. C'est le grand produit de l'exportation de l'Europe. Le deuxième, je vais y venir tout à l'heure. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un troisième temps. Le troisième temps, c'est que ces pays commencent à vouloir devenir, ou ces colonies commencent à vouloir devenir indépendantes, et à partir de ce moment-là, essayent de nationaliser la production scientifique. Alors, c'est-à-dire les académies, les universités, etc., se nationalisent, et la politique scientifique est conçue dans un cadre national. Alors, la question, une question commence à se poser à partir de cet exposé, c'est-à-dire un exposé qui parle justement d'une académie, l'Académie malgache. Et de cette académie, en rapport avec l'élite de la société et aussi avec les autres institutions nationales. Et aussi, finalement, qui aboutit à la fin à la question de leur grande production, qui est le dictionnaire de langue malgache. Bon, mais tout ça, immédiatement, commence à poser un problème beaucoup plus large et des tensions. Parce qu'à côté de cette académie, c'est-à-dire que cette académie, tout en étant le point de focalisation de votre travail, est aussi quelque chose qui commence dès le départ, dès les années 60, à être marginalisé de plus en plus par la création des universités, les 7 universités qui se créent dans les années 70, 80, et qui sont investies, pas seulement par des malgaches ou d'autres populations de Madagascar, mais aussi, et pas mal, par les Chinois, par les Britanniques, par les Peace Corps américains, alors, et par les ONG. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un très très bon terrain qui nous montre à la fois les limites d'une manière nationale de regarder l'histoire et aussi la manière dont ce que évoquait Georges Balandier tout à l'heure en disant que il n'y a pas un moment de rupture, en fait, il y a des reconfigurations, des transformations, des relations de dominés et des dominants, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, des nouveaux acteurs aussi qui entrent en jeu. Et ces nouveaux acteurs, bon, merci d'avoir dit qu'on est très dans une histoire européocentrée, ces acteurs, il y a un nouveau mot qu'on peut prononcer, c'est la Chine, qui entre. Et vraiment par là, par l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud-Est. De l'autre côté, il y a aussi la montée de l'Afrique du Sud et le fait qui attire complètement ces autres pays pour changer de langue officielle. Depuis 2007, en Madagascar, la troisième langue officielle, c'est l'anglais. Ce n'est pas le français et le malgache, l'anglais est une langue officielle. Et c'est une langue officielle, pas parce qu'il y a les États-Unis et parce qu'il y a l'Angleterre, mais parce qu'il y a le Tanzanie
et l'Afrique
du Sud. Donc, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes justement dans des nouvelles tensions, des nouvelles reconfigurations, et c'est un processus extrêmement intéressant à voir. C'est aussi intéressant à voir qu'il y a des ONG qui entrent et d'autres institutions, comme par exemple, pas l'Académie américaine des sciences, mais l'Académie californienne des sciences, qui est très, très fortement établie au Madagascar, qui finance beaucoup de choses et où, en fait, surtout sur les questions de biodiversité, les changements environnementaux et climatiques, le Madagascar commence à devenir un pays qui est sur la carte mondiale aujourd'hui, et c'est en fait grâce à ces nouveaux liens qui sont aussi pas du tout des liens sans domination. Au contraire, il y a des brèches dans lesquelles entrent les gens. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes, et je voudrais en fait justement aller sur cette autre question des nouveaux acteurs. Et là, justement, mon point d'entrée serait le papier d'Alessandro Triulsi, qui, en fait, à la fois a parlé, bon, le mal d'Afrique, et l'Afrique, c'est une Afrique, bon, c'est un double Afrique, c'est une Afrique à la fois de l'Est, mais aussi une Afrique du Nord. Et là, nous voyons aussi un nouvel acteur, c'est-à-dire la Libye, qui a aussi, en fait, des velléités impériales, hein, tout à fait, dans l'Union africaine. Sa place, comment est-ce qu'elle joue là-dedans, c'est quelque chose. C'est-à-dire que le jeu n'est pas juste un jeu entre les puissances établies au Nord et puis ces pays du Sud, mais en fait aussi des nouvelles configurations, des reconfigurations, des tentatives à travers l'Union africaine. Bon, et Kadhafi n'est pas du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un traitement qu'il réserve à cette ancienne puissance coloniale d'arriver comme ça. Elle a fait exactement la même chose ici à Paris il y a 3 ans et l'année dernière à New York. Il ne faut pas oublier, c'était exactement la même chose. Donc, ça n'a pas tellement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de mal d'Afrique. Alors, le mal d'Afrique, encore, par rapport aux boat people, par rapport à ces immigrés, qu'est-ce que vous faites avec l'autre partie de l'Empire italien? Parce que l'Empire italien n'est pas qu'un empire africain composé de colonies africaines. Il y a des protectorats, il y a toute une influence adriatique. Et les boat people sont aussi albaniens. Alors, est-ce que c'est juste un mal d'Afrique? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut voir dans des contextes un peu plus larges et ne pas juste avoir une relation purement avec l'Afrique, où je vais revenir en fait aussi à ces area studies dont vous parliez, je vais finir avec ça, c'est-à-dire, bon, ces area studies qui regardent d'ici juste une partie du monde. Les questions, même que vous aviez posées en fait, sont des questions qui sont posées aussi par rapport, bon, quel type d'histoire faire? Qui sont les acteurs de l'histoire? Bon, bien que moi, je ne suis pas un grand défenseur ou un défenseur du tout des subaltern studies, mais provocateur, que faire avec tous les autres acteurs que Nkrumah, que Jomo Kenyatta, que Lumumba, etc., c'est-à-dire quels sont les autres acteurs, les autres agendas, les autres programmes pour lesquels les gens luttent, et comment est-ce qu'on peut faire aussi pas des histoires connectées, mais peut-être des historiographies, peut-être des manières de voir qui viennent d'ailleurs, et comment est-ce que ça peut changer peut-être les sujets, les regards que nous avons de l'histoire. Et j'en termine. Bon, 13 minutes.
Parfait.
Alors, je voudrais revenir tout d'abord. Merci. Donc, nous aurons l'occasion peut-être d'échanger de façon plus informelle. Donc, permettez-moi de passer directement à la deuxième intervention, donc du professeur Kocrivitrovic. Je crois que l'idée, effectivement, de se lancer dans l'aventure difficile d'un comparatisme concernant la décolonisation des institutions savantes de part et d'autre, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler cette frontière si difficile à définir entre le dominant et dominé. Cette idée, effectivement, est très fructueuse. Elle pose évidemment la question des chronologies nécessairement différentes et aussi des enjeux politiques et culturels qui, je crois, ne peuvent pas être les mêmes, dans la mesure où, d'un côté, on a bien sûr une revue, je pense à la revue française d'histoire d'outre-mer, créée par le centre, en quelque sorte, pour faire simple, hein, et puis, de l'autre, une institution qui a un caractère plus fortement quand même lié à l'État, d'abord colonial, puis postcolonial, et qui est, par définition, périphérique. Comparatisme, oui, mais difficile à coup sûr. Pour ce qui est de votre affirmation, que je trouve extrêmement riche et stimulante, selon laquelle vouloir faire une histoire monde, c'est bien sûr poser la question de la fin d'une histoire hexagonale. Je suis tout à fait... Ou ce devrait être la fin d'une histoire hexagonale. Je ne peux que souscrire, mais j'ai envie de... mais on peut le faire ici, je crois, dans ce lieu, précisément. J'ai envie de mettre l'épée dans le plat et de demander dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas aussi la fin des découpages disciplinaires tels que les Français les ont mis en place. Je dois dire que si je suis si heureux d'être ici aujourd'hui, et qu'on me pardonne de le dire, si je suis aussi si heureux de travailler au CEN de Bordeaux, c'est parce que ce sont des lieux où on ne me demandera jamais, mais finalement, tu es historien, tu es anthropologue, tu es qui, là? Tu fais quoi? On ne me posera jamais cette question-là. On me demandera qu'est-ce que tu as à dire sur la formation de l'État postcolonial de Madagascar, enfin, etc. Je pense que je me suis fait comprendre. Troisième point, pas d'histoire interconnectée qui pourrait être cantonnée aux intermédiaires impériaux, à l'élite fabriquée par les empires. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée et... Sans doute, la fin de mon introduction elle-même dénote-t-elle une forme de mauvaise conscience rétrospective à l'égard de cette interrogation que je n'ai peut-être pas suffisamment soulevée, mais j'avais choisi délibérément la fenêtre d'une institution très proche du pouvoir colonial puis postcolonial. Mais indéniablement, on ne peut pas produire une histoire interconnectée en s'intéressant uniquement aux élites, disons, pour faire court. Je voudrais très rapidement dire quelques mots sur les remarques très, très pertinentes que vous m'avez faites, parce que je n'ai pas scrupule à dire que j'ignorais l'existence de cet article sur lequel je vais me précipiter. Donc je vais le lire. Ce sera la première chose que je ferai. Je voudrais... me focaliser, puisque le temps est compté, sur la remarque que vous avez faite concernant le passage au trilinguisme à Madagascar. Je crois qu'on peut en faire une lecture plurielle. Ce que vous avez dit est tout à fait exact, mais je crois qu'on peut tout aussi bien, nous avons très peu de temps, je crois qu'on peut tout aussi bien affirmer qu'il était impossible, du point de vue de la mémoire postcoloniale, culturelle et politique, de l'élite malgache, plus particulièrement, de réintroduire officiellement le français sans introduire une autre langue, en fait, comme personnage tiers, en quelque sorte. Il était impossible de revenir à un bilinguisme pur et simple, français-malgache, parce que cela, c'était remettre en cause le socle mémoriel de la deuxième indépendance. Et ça, c'est inconcevable, désormais, pour qui que ce soit à Madagascar. Voilà.
Oui, je me permets aussi de prendre la parole. Je remercie tous les gens qui ont parlé. Et moi aussi, je suis intéressé au comparatisme. Je trouve que c'est sur cela qu'il faut, débattre et tâcher aussi de se comprendre. Alors, trois points très brièvement. Le premier, c'est sur les accords de réadmission qui ont été mentionnés. Je pense que ces accords sont très, très significatifs de la nouvelle incapacité des négociations entre l'Europe et l'Afrique. Les accords de réadmission font partie de new conditionalities de l'aide. L'Europe ne donne pas d'argent à ces pays qui ne contrôlent pas leurs frontières. Donc, et on admet et on prétend que ces pays gardent les gens dans leurs propres frontières. Autrement, on ne donne pas de l'argent. Alors, ce qui veut dire que l'Europe délègue les pays africains, surtout les pays ainsi dits de transit, le contrôle des migrants irréguliers et on fait faire à eux le dirty work que nous ne voulons pas faire en Europe. C'est-à-dire les accords de réadmission prévoient que les pays comme la Libye, la Mauritanie, tous les pays du Maghreb, comme ça, ainsi dit, de réadmettre leurs propres gens. Mais au cas de la Libye, c'est aussi des gens qui ne sont pas des Libyens. Alors c'est ça. Hein. Et on fait cela et on prétend que cela fait et on s'en fiche des droits de l'homme. Hein. C'est-à-dire on ne meut pas dans ça le droit de l'homme. Alors ce qui veut dire que la capacité de négociation que les gens avaient dans l'Empire, comme disait hier Fred, n'est plus là. Et donc ça, c'est une comparaison sur laquelle nous devons réfléchir. Hein. Parce que c'est là qui explique aussi les reflux, les reculs et nos préoccupations. Alors, le deuxième point, je ne pense pas que le mal d'Afrique, le white man's burden, ont quelque chose vraiment de comparable. Le mal d'Afrique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Hein. Le white man's burden, c'est l'orgueil de porter la colonisation. Dans le mal d'Afrique, il y a tout un mélange des sensations où il y a aussi la liégeoise et il y a aussi la culpabilité, il y a aussi les petits blancs et il y a aussi toute une série de questions qui sont... Et je pense que ce serait bon de l'étudier un peu plus. Depuis quelque temps, j'ai cessé d'être un éthiopisant et je commençais à être quelqu'un qui tâche de laisser une trace sur le mémoire et les témoignages des Éthiopiens, des Érythréens, des Somaliens qui arrivent en Italie. Je pense que comme historien, mon devoir, c'est de laisser une trace de cette phase de transition, j'espère, où nous faisons comme si, hein, comme avait dit Georges Balandier avant, comme si on n'avait pas eu un empire, comme si on n'a pas porté la modernité dans ce pays. On oublie, on nie cette modernité. On nie cette modernité et on la met à l'écart. Et on la met à l'écart en exploitant les terreurs. On crée des syndromes, des psychoses, d'invasions qui n'ont rien à voir avec la situation concrète. Hein. Sam Venesman, écoutez, c'est très beau, La Noire. S'il y a un film qu'il faudrait revoir, c'est La Noire. Et justement, La Noire. Hein. Ça revient tout un cas de connectivité. La Noire sénégalaise qui vient en France. Mais c'est aussi les femmes migrantes qui maintenant sont la Noire au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye. Hein. La bourgeoisie nord-africaine a de gros problèmes avec les Noirs. Il faut reprendre aussi cette connectivité, autrement on ne comprend rien là-dessus. Et je viens au dernier point, des doubles Afriques, justement. Il y a des doubles Afriques. Et l'Empire italien comprenait les Albanais en même temps que les Libyens. Et vous savez, l'invasion des autres a commencé avec les Albaniens. Quand dans les années 90, il y a eu, dans une journée, 30 000 Albaniens qui sont arrivés à Bari. Hein? Et on les a mis dans le stade, on leur a promis de trouver une situation, et le lendemain, dans la nuit, on les a embarqués et on les a repoussés. Et c'est le modèle de Bari de 1990 qui maintenant est appliqué partout. Et malheureusement, est copié partout. Hein? L'exemple de Berlusconi est copié en France par ce qu'on fait avec les Roms. Et c'est sur cela que je pense que nous, les savants, on s'est dit les savants, enfin les étudiants de l'histoire et de l'humanité, nous devons commencer à protester et lier nos efforts afin que cette honte... parce que, et je reviens au dernier point de Fred... C'est ça. On ne peut plus négocier. Les gens qui arrivent en Europe n'ont pas le pouvoir de négociation qu'ils avaient dans l'Empire. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux naturalisations et aux questions des citoyennetés dans l'Empire. Les étudier la mobilité qu'on avait là, étudier la circulation, parce que c'est ça ce qui explique le passé et ce qui doit nous préoccuper pour le présent. Merci.
Donc on arrête là.
Je ne vais pas dire un mot avant de répondre. Ah, si. Un mot, enfin, mais vraiment très rapide, parce que vous m'avez posé deux questions. Alors la première sur la difficulté de travailler ensemble quand on a des points de vue différents, finalement. Mais je crois que c'est l'énorme apport, indépendamment de toute la littérature qui a exagéré et qui a coupé les cheveux en 18, des subalternes CD's et des postcoloniales CD's, dire vous avez le savoir, vous pensez que vous avez le savoir, mais les autres aussi, maintenant, et depuis une ou deux générations, ont le savoir aussi, et apprenez à vous entendre, même s'ils disent le contraire de vous. Ce n'est pas parce qu'ils disent le contraire que c'est faux. Et ça, c'est difficile. Et le seul moyen d'y réussir, c'est de travailler ensemble. Et c'est ce que font les équipes. Et alors, c'est ce que nous avons essayé comme Océane, le laboratoire que j'ai dirigé dans le temps, pendant 17 ans, qui s'appelle le CEDET. C'est le nom, c'est les sociétés en développement. C'est un mauvais nom, parce qu'on n'a jamais trouvé comment l'appeler. Avant, on l'appelait tiers-monde, mais c'était démodé. Alors, ça faisait plaisir aux institutions de l'appeler société en développement. Donc, on a dit... études transdisciplinaires. Histoire, géographie, sciences politiques, évidemment, sociologie, etc. On ne peut faire ça que internationalement, finalement... transdisciplinairement, moi je suis complètement d'accord avec vous, c'est la seule voie, mais tout en, y compris pour le problème des migrations qui font partie de cette histoire et qui est vue différemment, bien entendu, de la part de ceux qui veulent partir et de ceux qui ne veulent pas recevoir.